Je vais maintenant donner la parole à Cécile Renaud de Panzani. Vous travaillez dans l'agroalimentaire depuis 23 ans. Vous êtes passée chez Bell. Et puis aujourd'hui, vous êtes directrice qualité R&D chez Panzani et RSE. Vous êtes, je pense, un exemple en tout cas, et vous allez le montrer dans cette co-construction qu'on peut avoir avec les différents organismes de l'amont agricole, que ce soit les coopératives, que ce soit les agriculteurs. Vous êtes aussi très investi dans le local, puisque vous faites, vous transformez, en tout cas vous vous approvisionnez en France sur le blé dur. Peut-être avant d'attaquer ces sujets-là, une réaction par rapport à ces attentes consommateurs, puisque vous êtes à l'interface, la réaction et quel affichage vous avez auprès des consommateurs ?
Peut-être déjà pour réagir par rapport à ce qui a été présenté. En fait, nous, on a fait le choix, en tout cas dans notre démarche qui va être présentée tout à l'heure, c'est vraiment de mettre en collaboration, si je peux dire, en fait, les attentes en fait, de la filière avec les attentes du consommateur. Et donc c'est par ce biais-là en fait qu'on a pris en fait notre sujet et notre démarche de blé responsable français. Et en fait ce que vous disiez sur l'importance du français, et ben nous c'est ce qui parlait le plus pour le consommateur. Donc c'est ce que l'on a déroulé en premier. En fait après c'était qu'est-ce qui peut être bon en fait pour la santé du consommateur. Donc en fait on a déroulé en fait de cette façon-là en croisant l'intérêt de la filière et l'intérêt pour le consommateur. Donc nous on a vraiment acté notre démarche de cette façon-là. Et autre chose que je voulais dire, c'est que nous, on n'a pas segmenté notre offre, en fait. Nous, quand on s'adresse, en fait, notre démarche, en fait, c'est pour tous nos produits. C'est pour 100% de nos produits Panzani. En fait, ils vont être, en fait, sur notre démarche que je vais vous présenter, blé responsable français, c'est 100% de notre offre, en fait. Donc, on n'a pas décidé de segmenter telle ou telle partie, en fait, par rapport à notre démarche. Donc, c'est vraiment la masse, en fait, de nos produits qui est faite de cette façon-là. Et vous allez voir, par rapport à ce que je vais vous présenter, en fait, c'est nous, on souhaite, en fait, embarquer toute la filière aussi dans notre histoire autour du blé responsable français en co-construisant avec tous les acteurs de la filière. Donc, c'est de cette façon-là qu'on voit les choses.
Merci. Est-ce qu'il y a une ou deux questions de la salle juste sur ces attentes consommateurs avant qu'on passe à la partie plus agricole et à comment est-ce qu'on s'organise pour répondre à ces objectifs, à ces résultats attendus par les consommateurs ? Pas de questions ? Si ?
Une question pour Lydia de Cantard. Dans votre présentation, parmi ce que vous avez indiqué en tant qu'attente consommateur, j'ai vu que pas mal de sources étaient septembre 2021. Donc, ce n'est pas vieux, mais est-ce que les choses n'ont pas changé en l'espace de 3 mois, notamment compte tenu de cette inflation galopante ? Et quand on regarde notamment les sondages, il y en a tous les jours en ce moment, hein. Période présidentielle, c'est logique. On voit que le pouvoir d'achat, c'est revenu la préoccupation numéro un avant la santé, avant tout le reste. Est-ce que, du coup, ça ne va pas changer
si, c'est ce que disait justement la préoccupation, j'ai mis en filigrane. Effectivement, il y a un vrai risque de ralentissement de l'offre transition alimentaire, de cette demande, parce qu'il y a le pouvoir d'achat. Alors, cette étude, merci, qu'on a menée sur les préoccupations des ménages français, elle date de fin décembre 2021. Donc, on a voulu intégrer justement les hausses de prix. On en parle depuis septembre. Hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors, sur l'alimentaire, ça se voit pas encore trop dans les rayons. Ça va arriver, mais sur beaucoup de postes de dépenses, et en tout cas, on en parle, le battage médiatique autour de ces hausses de prix, elle est là. Donc, même si ça se voit pas, les Français, ils ont pas de notion d'évolution de prix, ils ne vont pas checker toutes les semaines comment les prix ont évolué. En tout cas, dans le battage médiatique, ils ont déjà ce sentiment de hausse de prix. Donc pour moi, les attentes, c'est des études qu'on mène, je vous ai mis septembre 2021, mais qu'on mène régulièrement. Je ne peux pas publier tout de manière publique tous les mois, mais c'est des choses qu'on traque très régulièrement. Donc dans les chiffres que vous avez vus, il n'y a pas de baisse à date, à part sur le bio, où on a une baisse un petit peu de perception du bio. Ils n'ont pas la volonté d'aller... de payer plus cher sur ces promesses-là. Mais et on le voyait d'ailleurs, hein, sur je rémunère mieux les producteurs, j'essaie de consommer plus local, je n'en ai pas parlé, mais les chiffres commencent à baisser un peu à court terme. Donc ça, c'est des chiffres assez récents aussi. Même si toute date de septembre, il y avait déjà un battage médiatique autour du prix, du pouvoir d'achat qui était déjà là. Donc pour moi, ça l'intègre. Mais c'est des choses qu'on traque, donc au cours de l'année, on aura bien sûr, on check ça régulièrement. Donc ça, c'est des choses qu'on fait déjà depuis des années et qu'on traque. Et ça devrait baisser effectivement, mais il ne faut pas lâcher justement, il y a des choses...
des choses structurelles, des contextes. Voilà, personne ne sait combien de temps ça va durer, ça c'est la problématique. Donc c'est un peu dur de faire des estimations dans un monde un peu incertain. On le voit bien, personne n'a prédit ce qui se passe en Ukraine totalement encore il y a 15 jours ou 3 semaines. Donc on est, voilà, crise sanitaire aussi, on est dans un monde très incertain aujourd'hui où les choses évoluent vite. Mais la tendance de fond est là, donc pour moi il faut aussi se baser sur les tendances de fond et pas que sur des phénomènes que pouvoir d'achat. Parce que les Français ont vite consommé mieux, quoi qu'il arrive, ça ne s'abaisse pas.
Cécile, je vous propose de présenter justement comment vous travaillez sur cette tendance de fond et sur le temps long avec le monde agricole.
Alors, je vais vous présenter en fait la démarche blé responsable français de Panzani. Alors en fait, déjà une slide d'introduction sur Panzani. En fait, donc on est leader en fait depuis plus de 70 ans sur l'aile des féculents en fait. Donc le marché français c'est 400 000 tonnes de pâtes en fait consommées par an. Nous ça représente à peu près 30% en fait de part de marché. Et Panzani en fait il occupe une place de choix dans les consommateurs en fait et dans les Français en fait qui consomment 96% en fait des pâtes qui ont ça dans leur placard. Et Panzani fait partie du top 10 en fait des marques préférées des Français. Donc depuis en fait des années, ça a commencé en fait dans les années 70 en fait Panzani a travaillé vraiment en co-construction avec tous les acteurs de la filière pour faire que la qualité du blé en fait soit à son rendez-vous. Donc on a commencé en fait à travailler sur tout ce qui était la sélection variétale, on a travaillé sur la couleur et sur la tenue à la cuisson. Donc en fait Panzani a eu en fait un rôle clé en fait dans cette qualité en fait du blé dur en France. Bon, le marché de la filière blé dur est une filière en fait qui est fragilisée comme vous le savez. Déjà, on est une petite filière hein, au niveau de l'échelle mondiale. En fait, c'est que 5% en fait de la production de blé dur mondial. Les surfaces, elles ne cessent de diminuer d'année en année. Et on a notre blé dur en fait qui est soumis aux aléas climatiques de façon ça a été particulièrement dramatique l'année dernière. Et donc, ça se ressent vraiment dans nos productions en fait et de plus en plus. Donc en fait, ce momentum, il est parfait aussi parce qu'en fait, en 2022, on va vraiment avoir un nouveau tournant en fait au niveau de Panzani. Et donc ce que l'on a décidé de faire, c'est vraiment d'ancrer en fait la démarche de Panzani autour du blé responsable français. Donc en fait, on a enclenché différents types d'engagements autour de cette démarche-là qui va vraiment du champ, donc vraiment du blé jusqu'au niveau de nos pâtes. Et donc ça se décline en trois engagements. Donc le premier engagement, donc, c'est le fait on a fait le choix d'être 100% français pour nos pâtes, fabriquées donc localement en France. On a ouvert nos engagements autour de la biodiversité de nos campagnes. Et enfin, un troisième engagement où on a pris vraiment le parti pris de sécuriser l'avenir de la filière aux côtés des agriculteurs. Donc je vais décliner en fait ces trois engagements. Donc avant de rentrer dans les engagements, encore une fois, notre façon de travailler chez Panzani, c'est vraiment de la co-construction avec tous les acteurs de la filière. Donc ça a commencé en 2013 où on avait axé tout notre programme et notre collaboration autour de l'usage raisonné des pesticides. Puis après, en 2019, on a vraiment ancré notre discours au niveau du blé responsable français en renforçant nos liens et nos contrats en fait, à long terme. 2021, voilà, la charte s'est enrichie. Vous allez le voir, on a gardé en fait, notre socle de base hein, autour de l'usage raisonné des pesticides, mais on l'a ouvert en fait, vers d'autres choses, autour de notamment la biodiversité et la pérennisation en fait, de nos partenariats avec les agriculteurs. Et donc ça a été fait donc en collaboration avec nos coopératives et puis des experts et notamment AgroSolutions. Donc je vais rentrer dans le détail en fait de ces trois engagements-là je vais passer là-dessus. Donc faire le choix du 100% français. Alors faire le choix du 100% français, c'est franchement un choix qui est audacieux parce que faire des pâtes, c'est relativement simple, hein, c'est de la semoule et de l'eau. Mais qui dit se mouler haut, on se doit d'avoir en fait un blé de qualité irréprochable. Et donc en plus, on fait le choix d'être 100% français. On doit être extrêmement vigilant et on doit avoir vraiment, tout au long de notre production, depuis l'amont jusqu'au produit fini, une maîtrise parfaite en fait, de nos organisations. Donc, à travers cet engagement 1, nous, on a sélectionné les meilleures variétés de blé pour faire le meilleur des pâtes. On travaille, on fait vraiment un travail d'orfèvre, si je peux le dire comme ça, de sélection en fait, et d'assemblage des meilleures variétés de blé. Et donc ça, c'est fait. On a en fait tout un centre en fait, d'expertise et de savoir-faire dans le sud de la France, le Crécerpal, qui a vraiment son rôle, un rôle clé en fait, dans cet assemblage-là. Et enfin, on transforme. Et donc là, encore une fois, le savoir-faire en fait, des personnes de production est clé pour justement adapter les outils de production en fait, à la qualité du blé qui, en ces temps-là, bouge quand même pas mal. Donc on parle de le réseau Panzani, c'est 4000 agriculteurs partenaires en France, hein, et c'est 470 millions de tonnes en fait, de blé qui sont transformées. Donc protéger la biodiversité de nos campagnes, ça veut dire quoi? Donc on a gardé en fait, notre socle de base autour de l'usage raisonné des pesticides, avec deux étapes. L'étape 1, qui est plus aucun insecticide de stockage d'ici 2022. Donc c'est déjà le cas, on a atteint 70% en fait, de nos récoltes stockées de cette façon-là. Et on s'est fixé comme objectif à 2025 d'avoir 100% de nos récoltes garanties sans résidus de pesticides. Donc ça, c'est la partie 1 en fait, de notre engagement. Et la deuxième partie, c'est de préserver la faune et la flore locale. Donc on développe des bandes fleuries, des nichoirs à oiseaux et des couverts végétaux pour favoriser la santé des sols. Donc on s'est fixé à deux objectifs à 2025, qui est d'avoir plus de 1000 hectares en fait, de bandes fleuries semées. Et à 2025, d'avoir 5000 refuges en fait, pour les oiseaux. Et il y a quelque chose d'important aussi qui est noté, c'est nous, on travaille et on accompagne en fait, via les COP et les agriculteurs pour la mise en place en fait, d'outils d'aide à la décision pour vraiment en fait, appuyer la partie du usage raisonné en fait, des pesticides. Le troisième engagement, donc, c'est autour de nos agriculteurs. Donc, ce que l'on fait, donc, c'est qu'on a, nous, on apporte un soutien financier au niveau des agriculteurs avec des contrats pluriannuels et donc des primes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la prime, en fait, elle ruisselle jusqu'à l'agriculteur à hauteur de 60%. Et la deuxième chose sous cet engagement-là, c'est vraiment d'innover et de co-construire avec la filière autour des grosses thématiques qui vont arriver demain dans le carbone, mais pas que. Et donc, on travaille avec le réseau d'agronomes au niveau des coopératives, avec des fermes pilotes, avec l'appui d'un comité scientifique qui nous aide et qui nous guide à faire les bons choix, parce qu'en effet, c'est du long terme, donc il faut faire les bons choix. Et donc, on travaille autour de la sélection variétale, on travaille autour de la santé des sols et autour de l'optimisation, évidemment, des intrants et de l'agriculture bas carbone. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense, de la démarche. On a parlé communication et comment en fait, atteindre le consommateur, justement, avec un programme de la sorte. Donc nous, on a, et là, ça va être déployé très prochainement. Donc sur nos packs, en fait, on communique de façon simple pour le consommateur. Donc on a axé notre discours sur la partie France, la partie locale et la partie rémunération des agriculteurs. Donc c'est des choses simples que le consommateur peut s'approprier facilement. Et ensuite, on va développer grâce en fait à des médias un peu plus longs, en fait, de façon à commencer à sensibiliser en fait le consommateur autour de pratiques plus vertueuses par rapport à l'environnement, parce qu'on aura en fait plus de temps pour expliquer les choses. Donc là, je vous ai présenté la partie blé, c'est mon propos du jour, mais en fait, on travaille aussi sur la transition agricole en fait sur notre filière tomate en Espagne. Et donc, en fait, nous, on a renforcé en fait, notre façon de travailler en dédiant vraiment un poste en fait, de responsable filière qui fait vraiment le maillage entre l'industriel, entre les coopératives, le terrain. Et donc, nous, on a décidé de créer ce poste-là en fait, chez Panzani. Voilà, je vous remercie. Je pense que j'ai été extrêmement rapide.
Oui, vous avez été tout à fait rapide. Merci Cécile. Effectivement, on le voit bien dans votre communication, une communication sur les résultats, hein, le local, la rémunération des agriculteurs. Vous parlez également de vos actions demain sur le carbone que vous travaillez. C'est la face immergée de l'iceberg. Concrètement, pour un groupe comme Panzani, qu'est-ce que ça veut dire dans un premier temps? J'imagine que ça... c'est d'abord de mettre un premier chiffre sur là où on en est et puis ensuite de construire une démarche de progrès.
Ben, avant de mettre un chiffre, en fait, on veut savoir où on met les pieds. Donc, en fait, on réalise un diagnostic, en fait, un diagnostic sur différentes zones géographiques pour vraiment savoir, en fait, grâce à notre plan, à notre cahier des charges, d'où on part et de vraiment prédire, en fait, notre trajectoire carbone avec déjà ce que l'on fait aujourd'hui et ce que l'on s'ambitionne de faire demain. Et donc, grâce à ça, on pourra définir, en fait, notre ambition carbone globale, puisque l'ambition... Parce que pour un groupe comme Panzani, la partie des intrants et notamment du blé dur, vu la masse, en fait, ça représente 60% en fait de notre bilan carbone. Donc nous, on a décidé de le faire de cette façon-là. Et très vite, en fait, on pourra mettre un chiffre en fait derrière ça.
Ok, c'est une bonne transition, je pense, pour Aline, Aline Lapierre d'AgroSolutions. Vous êtes manager chez AgroSolutions, en charge des dossiers d'éco-conception. On va le voir, effectivement. Déterminer une trajectoire carbone, ça demande du temps. C'est un pas de temps qui est long, ça demande des données aussi. Et la première étape pour dessiner une trajectoire bas carbone, ça peut être l'éco-conception. Et je propose à Aline de nous présenter comment, chez AgroSolutions, vous appréhendez cette démarche d'éco-conception, toujours en lien avec les différents acteurs, que ce soit les industriels agroalimentaires et puis les coopératives, les agriculteurs.
Merci. Alors effectivement, on va parler d'ACV et d'éco-conception de produits, donc ACV, analyse de cycle de vie. En fait, l'éco-conception, la manière dont je vais le présenter, elle s'inscrit plutôt dans la continuité, on verra, des démarches groupes qui peuvent être entamées par les entreprises, des démarches environnementales, de bilan gaz à effet de serre. Elle va plutôt être l'étape d'après, qui permet à l'entreprise de transformer l'essai en fait et de passer à l'action avec des projets qui concernent ses produits et ses filières. Donc moi je suis Aline Lapierre, je travaille chez AgroSolutions et on accompagne aujourd'hui les entreprises du secteur agroalimentaire dans la mise en place de projets d'éco-conception dont je vais vous parler. Rapidement, je pense que beaucoup aujourd'hui connaissent AgroSolutions dans la salle, donc je vais aller assez vite. On est une équipe on est le cabinet d'expertise conseil du groupe InVivo. On regroupe plus de 40 ingénieurs avec des expertises et des compétences variées en agronomie, en écologie, en gestion de bases de données également. Et donc on met en place avec des approches transversales des missions d'expertise, de conseil auprès des entreprises en allant donc depuis la production agricole jusqu'aux consommateurs. On remonte vraiment, on agit vraiment auprès des différents maillons des filières en mettant au service de ces entreprises donc une expertise scientifique et agronomique et une bonne connexion avec le terrain également, puisque AgroSolutions du groupe InVivo a un lien très fort avec les coopératives. Donc on est très actifs notamment sur le sujet du carbone, on pourra en reparler, on a beaucoup participé à la rédaction des méthodologies label bas carbone, on propose aujourd'hui des outils d'évaluation de bilan gaz à effet de serre à l'échelle des exploitations, on pourra évoquer ces différents points. Là je vais vous parler d'une des missions donc, qui est l'accompagnement sur la partie ACV éco-conception. Là, c'est les différents métiers d'AgroSolutions aujourd'hui. Donc, on est sur l'accompagnement à la mise en place de filières durables. On va accompagner les entreprises du secteur agroalimentaire dans le changement de pratiques agricoles, en interagissant au niveau des cahiers des charges, notamment. Sur le métier de la préservation des ressources naturelles, donc on intervient sur des projets alimentaires territoriaux, par exemple, sur les sujets de la biodiversité, du changement climatique, bien sûr. On a mis en place des outils et on a une vraie expertise aujourd'hui sur les indicateurs agro-environnementaux, pardon. Donc que ce soit sur le sujet du carbone, de la biodiversité. Et puis on intervient sur des solutions innovantes qu'on voit apparaître aujourd'hui dans les filières, comme l'agriculture urbaine, le développement de l'énergie agri-photovoltaïque ou de la méthanisation. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet sur ACV et éco-conception, je vais rappeler d'abord ce qu'est l'éco-conception. Je pense que c'est un terme qui aujourd'hui est très connu. Le premier qui a fait de l'éco-conception, ce n'est pas un concept nouveau, c'est Coca-Cola dans les années 70, donc ça date. L'éco-conception, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est la prise en compte de l'environnement dans la phase de conception ou de l'amélioration d'un produit, qui peut être un bien matériel ou un service, en considérant l'ensemble de son cycle de vie. Quand on fait de l'éco-conception, on cherche à améliorer l'éco-efficience du produit. Donc l'efficience, C'est pas la même chose que l'efficacité. L'efficacité, c'est chercher à optimiser le résultat. L'efficience, c'est chercher à optimiser l'utilisation des moyens pour atteindre un résultat donné. Donc, avec l'éco-conception, on va chercher à optimiser le service rendu par un produit sur son impact environnemental. Et on le disait tout à l'heure, on a parlé des démarches entreprises, des bilans gaz à effet de serre qui sont aujourd'hui mis en place par les groupes. Donc, Total, Nestlé, Danone s'engagent tous sur des trajectoires carbone avec des objectifs chiffrés de réduction de leur bilan gaz à effet de serre à l'échelle groupe, des objectifs de neutralité carbone, alors qu'ils peuvent poser question, ou de zéro émission nette, puisqu'on doit parler comme ça maintenant à horizon 2035-2050. Donc ça, c'est les démarches qui sont prises à l'échelle des groupes. Et l'éco-conception, ça va être finalement un des outils que ces entreprises peuvent mettre en place pour aller agir au niveau de leur filière, au niveau de leurs produits, pour atteindre ces objectifs de réduction de leur impact carbone qu'ils se sont fixés. Donc, on a parlé d'éco-conception de produits alimentaires. Là, je vous ai mis... on peut parler d'éco-conception dans la cosmétique, on en parle beaucoup. Un exemple un peu parlant, là, c'est pour ça qu'il y a un rouge à lèvres sur ma diapo, c'est que le rouge à lèvres, c'est un produit qu'on a historiquement cherché à alourdir. On mettait du poids dans le rouge à lèvres parce que pour la consommatrice, c'est rassurant d'avoir un rouge à lèvres un peu lourd. On a l'impression d'avoir un produit consistant. Et finalement, il y a des entreprises de cosmétiques qui sont positionnées en disant on va finalement supprimer ce poids qu'on met artificiellement dans le rouge à lèvres. On rend le même service. Et là, on est sur une démarche d'éco-conception puisqu'on diminue la matière, on diminue l'impact environnemental de la conception de ce rouge à lèvres. Ça pose question d'ailleurs parce que, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ça va à l'encontre de l'attente consommateur qui, lui, du coup, va être déstabilisé par le fait de se retrouver avec un rouge à lèvres allégé où il va avoir l'impression d'avoir un produit dégradé. Il y a la même chose sur le jambon, par exemple. On est habitué en France à avoir du jambon très rose dans nos rayons et dans les démarches d'éco-conception qui peuvent être proposées. On va chercher à enlever les colorants qui sont dans ce jambon. On se retrouve avec du jambon qui va avoir une couleur grisâtre. Et là, pour le consommateur, voilà, donc des exemples un peu concrets de ce qui peut se passer en éco-conception, mais qui va pas toujours être facile à amener dans les rayons. Et puis, il y a des chambres d'hôtel éco-conçues, il y a tout un tas de services dématérialisés qui sont éco-conçus aujourd'hui. Alors, l'éco-conception, c'est une méthode qui est standardisée dans une norme ISO, la 14062, et qui s'appuie en fait sur une première évaluation environnementale d'un produit, d'une gamme de produits ou d'une filière qui est généralement conduite en analyse de cycle de vie. Alors je pense que vous êtes tous familiers ici avec cette méthode, je vais en rappeler les grands principes. Donc c'est une étude de l'empreinte environnementale d'un produit, une méthode d'évaluation qui est multicritère, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à différents enjeux environnementaux qu'elle va suivre, différents critères, par exemple les émissions de gaz à effet de serre, l'eutrophisation de l'eau, l'acidification des milieux, les consommations d'énergie fossile ou la consommation de minéraux ou de terres rares. Voilà, ça c'est des exemples de critères qui peuvent être conduits dans une analyse de cycle de vie, qui est donc une analyse multicritère. L'autre point clé de la CV et de l'éco-conception, c'est qu'elle est multi-étape, c'est-à-dire qu'elle va du berceau à la tombe. On regarde toutes les étapes de la fabrication du produit, depuis l'approvisionnement, l'extraction des toutes premières matières premières qui rentrent dans la chaîne de valeur du produit, jusqu'à son utilisation finale par le consommateur. Donc, tout à l'heure chez Panzani, là, vous en parliez, il y a un enjeu aussi sur la cuisson, par exemple, pour donner un exemple de ce que ça peut être l'utilisation finale et son impact, la cuisson des pâtes à la fin chez le consommateur, comment est-ce qu'on optimise et on aide le consommateur à limiter ses consommations d'énergie à cette étape-là. Et c'est aussi une approche qui est multisystème dans la CV et dans l'éco-conception qui va prendre en compte toutes les composantes d'un produit. Donc quand on cherche à réduire l'impact environnemental d'un produit, on va chercher à réduire l'impact du contenant, du contenu, enfin de l'emballage par exemple, peut-être des suremballages, peut-être des palettes si on veut aller jusque-là. Donc voilà, on essaye d'avoir au maximum une approche un peu holistique et de prendre en compte toutes les étapes et toutes les composantes du produit. Alors, les objectifs de l'éco-conception, il y en a plusieurs. Un des premiers objectifs les plus évidents pour les partenaires avec lesquels on travaille aujourd'hui, ça va être de pouvoir prioriser les actions. C'est-à-dire que les industriels qu'on accompagne ou les acteurs du secteur agroalimentaire qu'on accompagne ne savent pas forcément là où il faut agir en premier pour avoir un impact significatif sur l'environnement. Donc l'ACV et l'éco-conception, ça permet avec une première étape de diagnostic environnemental d'objectiver si c'est la matière première, si c'est l'étape agricole qui va être le plus impactante, si c'est les process industriels de transformation, si c'est le transport, si c'est l'utilisation chez le consommateur du produit. Donc on a, avec l'éco-conception, la possibilité de prioriser les actions et donc d'utiliser au mieux les moyens qu'on va mettre dans la réduction de nos impacts. Un deuxième objectif, c'est l'évolution de la réglementation. Donc, je pense que vous en avez entendu parler pour certains d'entre nous, la loi AGEC là, qui est passée début 2022, donc, qui prévoit la suppression des emballages plastiques dans les fruits et légumes en grande et moyenne surface. C'est un exemple de réglementation qui est crucial pour les industriels d'anticiper. Et là, l'éco-conception peut aider à anticiper et à trouver des solutions de nouveaux emballages, voire de suppression de l'emballage sur cette question. Donc c'est bien sûr en objectif la création de valeur avec des produits qui sont plus vertueux sur le plan environnemental. Donc là, vous avez un exemple d'un parfum, je crois que c'est Guerlain, on va citer les marques, tant pis, mais qui avec de l'éco-conception, va chercher, on en parlait avec le rouge à lèvres tout à l'heure, à alléger le poids de son produit. Donc c'est vrai que dans la cosmétique, ça s'est beaucoup imposé finalement parce qu'on était sur des produits où on lésinait pas entre guillemets sur les poids, sur les petits, le côté gadget un peu des emballages. Et là du coup c'est facile entre guillemets de revenir à des choses plus sensées, juste en supprimant l'emballage. Donc là ici la surcouche de verre qui était dans ce parfum pour réduire le poids matière et donc l'impact environnemental du produit. Un dernier objectif que je cite là de l'éco-conception et qui est important pour les entreprises qui mettent en place ces projets, c'est finalement de pouvoir fédérer les différentes équipes de leur entreprise autour d'un projet à impact positif. Donc de faire travailler ensemble le marketing, les services industriels, la RSE, les services commerciaux autour d'un même projet. Donc c'est très fédérateur et finalement ça c'est un impact, enfin c'est un objectif qui est important pour les acteurs aujourd'hui. Alors, un petit peu de méthode, je vais juste passer en revue ici les différentes étapes de l'éco-conception. La première étape, bien sûr, c'est le diagnostic environnemental. Donc, je le disais tout à l'heure, elle passe par une analyse de cycle de vie. On va faire une photo à T0 de l'empreinte environnementale de mon produit sur les différents critères et enjeux qui nous intéressent. Donc, l'industriel identifie le produit ou la gamme cible sur lequel il veut travailler et va réaliser son analyse de cycle de vie, ce qui va lui permettre d'identifier les enjeux et les leviers, enfin les enjeux clés sur son produit. Est-ce que ça va être l'impact GES de mon amont agricole? Est-ce que ça va être l'impact trophisation de mes process de transformation industrielle? Et puis, ça va être aussi d'anticiper les leviers qu'il va pouvoir actionner, donc les actions à mettre en place de manière prioritaire. Est-ce qu'il faut travailler, par exemple, pour la partie agricole, sur la fertilisation en priorité? Est-ce qu'il faut travailler sur l'alimentation de mes vaches laitières? Est-ce qu'il faut travailler sur les consommations d'énergie de mes process usines? Voilà. Donc ça, c'est la première étape qui permet de faire ce diagnostic. L'étape 2, on est sur une étape d'idéation, de création d'idées, où là, il faut aller vraiment rassembler les acteurs, les parties prenantes, pour faire émerger des idées, au début, en se laissant un champ des possibles le plus vaste possible. Donc au tout début, il faut essayer d'être, voilà, de susciter l'innovation, les idées, sans brider. On identifie les pistes d'éco-conception qu'on va pouvoir mettre en place pour répondre aux enjeux qu'on a identifiés. Après, toutes les pistes qu'on a identifiées, on va les hiérarchiser et puis on va les sélectionner sur des critères objectifs de faisabilité, de coût, bien sûr, d'importance des attentes pour les parties prenantes internes ou externes de l'entreprise. L'idée étant là de co-construire les solutions. Une fois qu'on a identifié les pistes, on va valider leur pertinence environnementale en modélisant, avec une nouvelle ACV par exemple, l'intérêt effectif de ces pistes d'éco-conception. Donc demain, si je passe d'un emballage plastique à un emballage en polymère biosourcé, par exemple, de combien ça va permettre de réduire mon empreinte environnementale à l'échelle de mon produit, pour voir si effectivement on est sur l'épaisseur du trait ou si on arrive à réduire de manière significative notre impact. Donc ça, c'est la validation de l'intérêt environnemental. Et l'étape 4, ça va être la mise en œuvre des procédés, enfin des actions d'éco-conception. Donc on a identifié les actions qu'on voulait mettre en œuvre, on les a modélisées. Maintenant, il faut les mettre en place dans la filière. Donc ça va être des évolutions des techniques de production, par exemple. Donc on va accompagner les producteurs dans les changements de pratiques. On va accompagner les industriels dans des investissements qui vont permettre des économies d'énergie. On va travailler sur le transport. Donc ça, c'est vraiment la mise en œuvre. Et cette mise en œuvre, pour s'assurer qu'elle est effective, il est très important d'avoir ce qu'on appelle des KPIs, donc des indicateurs de performance qui attestent que ces actions d'éco-conception, elles sont effectivement mises en place. Donc des choses objectivables et qu'on va pouvoir suivre dans le temps au sein de l'entreprise. L'idée étant de vraiment avoir des choses pérennes et pas une petite action qui ferait vlouf et qui s'arrête au bout de 6 mois après le démarrage du projet. C'est surtout pas ce qu'on veut. On ne se paye pas un diagnostic juste pour la beauté du geste, mais on veut mettre en place des choses pérennes dans l'entreprise. Bon, puis enfin, la dernière étape, c'est bien sûr l'étape de valorisation, qui est très importante, qui permet de faire une communication interne et externe sur les bénéfices attendus de notre projet d'éco-conception. Donc, communication interne au sein de l'entreprise. On parlait de fédérer tout à l'heure, c'est important de montrer que voilà, les acteurs ensemble, les différents services peuvent travailler ensemble pour générer du bénéfice environnemental. Et puis externe, vers les consommateurs, on en a parlé, qui ont des attentes très fortes. Et puis vers les différentes parties prenantes, ONG, collectivités, qui gravitent autour de l'entreprise. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, les projets d'éco-conception qu'on accompagne en industrie agroalimentaire, ils durent de 12 à 24 mois, entre la première étape de diagnostic environnemental jusqu'aux dernières étapes de valorisation. Je n'ai pas le chrono, donc tu me dis si tu me... Ouais. Bon, juste un petit point sur les facteurs clés de succès pour la mise en place d'une démarche d'éco-conception qui soit utile et efficace. Donc, j'en parlais, il faut vraiment que ce soit une démarche collective. Donc, c'est important que les services n'aient pas l'impression que ce soit une démarche qui soit poussée par la direction de l'entreprise, mais vraiment que ce soit quelque chose de collectif qui associe les services, donc marketing, achat, R&D, RSE. Et puis également qu'ils fassent travailler ensemble les acteurs de l'amont et de l'aval. Donc c'est un projet d'éco-conception, il est d'autant plus intéressant et pertinent si un industriel va travailler avec ses fournisseurs en amont et puis ses distributeurs ou les étapes de transformation en aval, on sera plus impactant. Le choix des produits cibles également est un autre facteur clé de succès puisque ça permet de crédibiliser la démarche. Il vaut mieux aller, quand on veut mettre en place un projet d'éco-conception, il vaut mieux aller sur un produit emblématique qui soit significatif en valeur ou en volume dans les ventes et pas forcément chercher le petit truc pour tester, voir ce qu'on pourrait faire parce qu'on risque de perdre en crédibilité. L'idée étant potentiellement d'élargir une première démarche à l'ensemble des gammes demain, comme vous le faites chez Panzani, puisque l'objectif c'était d'attaquer l'ensemble des gammes. Alors, je vais parler des leviers pour actionner la transition agricole. Donc on a ces projets d'éco-conception qui sont pilotés par les industriels agroalimentaires aujourd'hui. Et on le voit souvent, ce qui pèse lourd dans le bilan environnemental d'un produit agroalimentaire, c'est son amont agricole. Là, on vous a mis l'exemple d'un bilan environnemental sur un biscuit chocolat. Et on voit sur la partie gauche, en rouge, les différents impacts par étape du cycle de vie de ce produit. Et ce qu'on voit, et c'est souvent ce qu'on retrouve sur les produits alimentaires, c'est la part très importante de l'étape agricole, donc, qui représente ici plus de 80% de l'impact carbone de notre produit. Ça, lorsqu'on met en place un projet d'éco-conception et donc le diagnostic environnemental, c'est ce type de résultat qu'on va voir. Et quand je disais tout à l'heure qu'on va pouvoir hiérarchiser les enjeux, éventuellement les matières premières sur lesquelles on travaille, c'est à partir de ça qu'on peut le faire. Donc ça va être mon résultat d'ACV normalisé, qui me permet donc de hiérarchiser et de me dire, bon, c'est sur l'amont agricole, si demain je vais avoir une réduction significative de mon impact carbone, c'est sur l'amont agricole que je dois travailler. En plus de ça, on peut préciser encore nos résultats et faire le split de quels ingrédients sont impactants sur cet amont agricole. Là, dans le cas de mon biscuit, j'utilise du beurre, j'utilise des œufs, du chocolat, de la farine, du sucre, bien sûr. Et ce que l'ACV, l'analyse de cycle de vie, va nous montrer, c'est que les matières premières qui sont prioritaires pour un projet d'éco-conception, c'est le beurre et le chocolat noir, dans le cas présent. Donc on va pouvoir cibler et prioriser les filières sur lesquelles travailler. Merci. Grâce aux résultats d'analyse de cycle de vie. Le diagnostic environnemental étant posé, on va ensuite identifier les pistes d'éco-conception. Donc c'était la deuxième étape, si vous vous souvenez de ma démarche. Donc là, c'est une espèce de matrice de matérialité, en quelque sorte, qui reprend, alors, bon, c'est pas très lisible, ça devrait être à peu près lisible, qui reprend les différentes pistes qui peuvent émerger dans un atelier créatif pour aller réduire mon impact sur mon produit alimentaire. Alors, les différentes couleurs, ça représente les différentes étapes, amont agricole, emballage, distribution. La taille des bulles, c'est leur intérêt environnemental perçu. Et puis, en ordonnée, vous avez le coût de la mise en place. En abscisse, la facilité de mise en œuvre. Donc voilà, là, on a identifié des pistes et puis on va les hiérarchiser en fonction de leur intérêt et de leur faisabilité technico-économique. Oui, alors, du coup, comment est-ce qu'on accompagne le changement de pratique agricole ? Une fois qu'on a identifié nos pistes d'éco-conception sur l'amont agricole et qu'on veut accompagner le changement de pratique de nos agriculteurs, il y a plusieurs étapes qui sont indispensables. C'est bien sûr tester et expérimenter les pratiques agricoles de demain. Donc là, je vais faire un petit peu donner quelques exemples de ce qu'on fait aujourd'hui chez AgroSolutions et Bioline pour intervenir à ces différents niveaux. Donc sur le test, les coopératives aujourd'hui vont tester les produits, les pratiques agricoles qui permettront demain de réduire l'impact environnemental des agriculteurs. Donc chez AgroSolutions, on accompagne les coopératives, notamment dans leur réseau d'essais techniques avec notre activité des poules, grandes cultures, vignes, arbres et légumes. On teste des pratiques et puis on mesure également. On essaye d'objectiver avec des résultats chiffrés leur intérêt. Donc il faut des outils pour ça. Et sur l'empreinte carbone, pour citer cet exemple, sur l'empreinte carbone et gaz à effet de serre des exploitations agricoles, il existe des outils comme Carbon Extract, qui permettent de faire le bilan gaz à effet de serre, donc on pourra en reparler si vous avez des questions précises là-dessus, à l'échelle de l'exploitation agricole, et puis d'identifier quelles pratiques permettent de réduire l'empreinte carbone. Donc soit en diminuant les émissions, soit en augmentant le potentiel de stockage de carbone par les sols agricoles et la biomasse. Un autre point clé pour le changement de pratique, c'est tracer les changements de pratique. Donc, aller collecter des données sur les pratiques mises en place par les agriculteurs, les mettre dans des bases de données et puis les analyser pour voir dans le temps, de manière pluriannuelle, comment elles évoluent. Et puis, bien sûr, accompagner le changement des pratiques agricoles, ça doit nécessairement passer par la valorisation par l'aval de ces changements de pratiques. Alors, je cite quelques exemples. Le label bas carbone est une des solutions aujourd'hui de financement possible de la transition agricole sur la partie gaz à effet de serre. Il existe aujourd'hui d'autres schémas de financement, des primes filières, des aides PAC, qui probablement demain s'associeront pour permettre de financer cette transition agricole qui a un coût, on en est tous conscients. Alors, je termine vite. Ça a été déjà évoqué. Quel est l'intérêt pour une entreprise de se lancer dans l'éco-conception ? C'est aussi de pouvoir valoriser demain un bénéfice avec des résultats tangibles pour le consommateur. Bon, on en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, l'intérêt est de pouvoir communiquer sur le produit. C'est aussi parce qu'il y a des attentes qui évoluent sur l'affichage environnemental des produits alimentaires. L'alimentation, c'est un quart de l'empreinte carbone des ménages ADEME. Des ménages français, pardon. Donc ça, c'est une source ADEME. Donc, il y a un poids très fort de notre alimentation sur notre empreinte carbone. Donc, les ministères de l'écologie, de l'alimentation et l'ADEME ont mis en place, d'abord en 2012, puis ont renouvelé une expérimentation sur l'affichage environnemental des produits. Et donc, aujourd'hui, il y a tout un tas de solutions qui ont été proposées. Donc, on a cité l'EcoScore, le Planet Score, la note globale, qui sont des méthodes qui existent aujourd'hui pour proposer une note plus ou moins agrégeantes qu'on va retrouver sur les produits, alors chacun avec leurs avantages et inconvénients. Et c'est sûr qu'on pourrait s'y perdre un petit peu. En tout cas, aujourd'hui, il y a une attente des pouvoirs publics et de la distribution pour pouvoir afficher la valeur environnementale des produits. D'où l'intérêt de l'éco-conception qui va permettre à un industriel demain de se positionner, puisque ces notes, notamment Planet Score et EcoScore, vont se baser aussi sur des résultats d'ACV. Alors, pas que, mais se base sur des résultats d'ACV. Et puis, on a un cadre réglementaire européen qui a évolué et qui intègre aujourd'hui ce qu'on appelle le Product Environmental Footprint, donc qui fixe les règles en fait, de comptabilisation des impacts environnementaux des produits alimentaires que doivent suivre les acteurs du secteur alimentaire pour faire de l'affichage environnemental. Je termine, j'en ai pour une seconde. Juste pour, c'est des diapos qui, c'est des chiffres qui viennent du baromètre éco-conception de l'ADEME qui suit, en fait, avec des questionnaires, les actions qui sont mises en place par les entreprises qui font de l'éco-conception. Et c'est juste pour vous illustrer aujourd'hui que pour un tiers des entreprises qui ont mis en place de l'éco-conception chez eux, il y a eu une augmentation des volumes ou de la vente, pardon, des produits, donc une amélioration de la performance commerciale des entreprises grâce aux projets d'éco-conception qu'elles ont mis en œuvre. Bon, puis le deuxième avantage, je le citais tout à l'heure, c'était une amélioration de l'image également de l'entreprise et de la relation qu'elle peut avoir avec ses clients ou avec les parties tierces. Après c'est fini. Juste pour les industriels agroalimentaires qui seraient intéressés, aujourd'hui il y a des aides ADEME qui existent et donc l'ADEME accompagne le développement de l'éco-conception avec des aides qui peuvent couvrir 50 à 70% des dépenses immatérielles qui vont être mises en place par une entreprise qui voudrait se lancer sur ces projets-là dans le secteur alimentaire. Donc je cite juste l'appel à projet Green Go et l'appel à projet Perfecto sur une approche plus R&D de l'éco-conception. Et je termine ici.
Ouais. Merci Aline. Effectivement, donc si je comprends bien, la proposition qui est la vôtre, elle est double. Elle est d'une part d'avoir des outils qui nous permettent justement de poser un diagnostic et d'accompagner et d'aller jusqu'à la valorisation. Et le deuxième point, c'est sur ce diagnostic, sur les moyens à améliorer, c'est de travailler avec les filières, avec les coopératives, avec les agriculteurs sur les moyens à mettre en place et comment est-ce qu'on peut construire à la fois une agriculture compétitive, une filière compétitive qui rentre dans le bas carbone. Ça fait la transition avec mon voisin de droite, donc Kevin Larue. Vous travaillez chez Océalia, vous êtes directeur du service InnovAgro. Est-ce que vous pouvez représenter peut-être en deux minutes, pour ceux qui ne connaîtraient pas, la coopérative Océalia, où est-ce que vous êtes situé, quelles sont vos filières, vos productions?
Donc deux mots juste pour présenter la coopérative Océalia dans laquelle je travaille. Donc on est une coopérative basée sur 8 départements, essentiellement le Poitou-Charentes, le Limousin et puis une partie de la Dordogne du coup. Donc on travaille avec à peu près 10 000 adhérents agriculteurs sur 3 filières principalement. Les grandes cultures, donc on a un petit peu de tout comme espèce sur le territoire, si ce n'est les cultures industrielles betteraves, pommes de terre qui sont assez peu représentées chez nous. Il y en a un tout petit peu, mais ce n'est pas notre cœur de métier. Mais sinon, voilà, on a de toutes les céréales. L'élevage également, qui est fortement présent, notamment sur le Limousin, mais aussi les Deux-Sèvres, la Vienne. Donc là aussi, on a un petit peu de tout comme élevage, avec quand même une dominance des élevages bovins et caprins sur les Deux-Sèvres. Et puis enfin, la viticulture, puisqu'on est sur le vignoble de Cognac. Donc voilà, c'est aussi une filière qu'on accompagne. Voilà.
En termes de filière, de relations avec les industriels agroalimentaires, est-ce que ces dernières années, donc on l'a vu, hein, il y a un essor des filières qui est au niveau, dans ce paysage de transition alimentaire qui redescend sur l'amont agricole, est-ce que vous avez vu une évolution justement entre, dans un premier temps, vraiment de la mise en place de moyens et aujourd'hui un marketing, une construction des filières qui s'orientent plus vers du résultat?
On voit effectivement apparaître petit à petit, je dirais, des exigences, des objectifs qui se tournent davantage vers des exigences de résultats que de moyens. Alors, je dirais, c'est progressif. On a encore peut-être une majorité d'exigences qui portent sur des moyens. Je pense aussi que derrière ça, il y a une question qu'on a assez peu abordée, mais qui fait clairement partie de notre système agroalimentaire français, c'est la question de la traçabilité et du contrôle derrière tout ça. C'est assez facile assez facile, tout est relatif, mais on va dire les moyens souvent sont contrôlés justement sur des aspects de traçabilité. Les résultats, selon de quel type de résultats on parle, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais on voit apparaître effectivement des filières. Ça a été évoqué par Panzani, mais notamment du zéro résidu, par exemple, sur les aspects pesticides, ou alors certaines exigences vis-à-vis, on pourrait citer aussi le label HVE3, alors qui reprend à la fois des moyens, mais qui a aussi sur certains aspects de son référentiel des exigences de résultats. Voilà, c'est des choses qui commencent à se développer, en tout cas sur lesquelles on a de plus en plus de discussions. Ouais.
Et concrètement, dans votre travail technique avec les adhérents, avec les expérimentations que vous pouvez mettre en œuvre, comment est-ce que vous travaillez ça? Comment est-ce que vous abordez ces objectifs consommateurs qui sont loin, hein, dans la chaîne de valeur? Comment est-ce que vous redescendez ça au niveau de l'amont agricole dans vos expérimentations, dans votre travail au quotidien?
Alors, on va dire ça implique quand même plusieurs choses, hein. La mise en place d'une agriculture de résultats par rapport à simplement la mise en place de moyens. Prendre des engagements sur un résultat, ça reste moins évident que prendre des engagements sur des moyens. Puisque s'engager sur des moyens, bon, si ce n'est les aspects coûts, mais à la rigueur qu'on connaît assez facilement à l'avance, on ne prend pas beaucoup de risques et il est assez facile d'aller cocher les cases d'un cahier des charges qui ne porte que sur des moyens. Par contre, quand on va parler de résultats, ben le résultat, ça va être, on va dire, le point d'arrivée vers lequel on souhaite aller. Mais pour faire ça, ça va quand même impliquer pas mal de choses. Ce que l'on va mettre en place dans les exploitations, ce sera de toutes les manières toujours des moyens. Mais pour s'engager sur un résultat, il va du coup falloir être capable d'établir un lien et d'avoir la connaissance pour prédire finalement si je mets en place tel moyen dans telle condition, ça va me permettre ou pas d'atteindre le résultat escompté. Voilà. Et ça, c'est assez, enfin, c'est pas si évident que ça, pour pas dire que c'est un petit peu compliqué. Et c'est assez nouveau aussi. Ça suggère donc du coup effectivement de mettre en place pas mal de démarches d'acquisition de connaissances, d'expérimentation. Ça rejoint aussi ce qui a été dit tout à l'heure par Philippe, la nécessité aussi quand même pour nos entreprises d'avoir une certaine taille critique pour mettre en place cette acquisition de connaissances. Chez nous, on a 12 personnes qui sont à temps plein sur la R&D et qui travaillent uniquement justement sur l'expérimentation. Donc c'est plus de 200 essais par an, 10 000 micro-parcelles. On a complété ce réseau-là par de nouveaux dispositifs également, parce que il y a aussi autre chose, c'est qu'en agriculture, on travaille sur du vivant, dans un système ouvert et avec des paramètres extérieurs sur lesquels on n'a pas la maîtrise. Bon, c'est bien connu, voilà, le sujet de discussion préféré du monde paysan, c'est la météo. Mais la météo, c'est quelque chose qui influe beaucoup sur les résultats qu'on va obtenir à la fin, et pour autant qu'on ne maîtrise pas. Et ça veut dire que pour la mise en place d'un même moyen, selon ce type de facteur extérieur, on pourra avoir des résultats différents, et ça complexifie d'autant plus les choses. Et donc on est obligé aussi d'appréhender la complexité de ce système agricole pour justement pouvoir s'engager sur des résultats. Voilà.
Oui. Est-ce qu'au contraire, le fait de laisser libre recours justement à l'agriculteur sur le choix de ses moyens, on le voit, hein, la réglementation restreint un certain nombre de moyens. On a, par des cahiers des charges, des fois qui sont très restrictifs, un nombre de moyens qui peut être très réduit et qui, du coup, ne peut plus laisser place au pragmatisme de l'agriculteur. Or, au contraire, si on s'engage sur un résultat avec l'incertitude, effectivement, que ça peut avoir, ça peut aussi laisser plus de liberté d'entreprendre à l'agriculteur, de s'adapter aux conditions météorologiques, aux conditions agroclimatiques qui sont les siennes, et justement de choisir ce qui est le plus pertinent pour atteindre le résultat escompté, et non plus être dans un dogmatisme de mise en place de moyens.
Alors ça, c'est vrai que c'est ce qui est par contre plutôt intéressant avec le fait d'aller vers une agriculture de résultats, c'est que finalement on n'enferme plus les agriculteurs dans justement des moyens qui sont ou pas adaptés finalement aux exploitations dans lesquelles on les met en place. Ça a été dit aussi tout à l'heure à travers l'exemple de l'agriculture biologique, qui est facilement déployable dans certaines exploitations, beaucoup plus difficilement dans d'autres, où parfois, notamment tout ce qui est désherbage mécanique et tout, selon les types de sols, ça peut être assez compliqué. Et donc le fait de prendre uniquement un engagement sur le résultat, je dirais, ça laisse la possibilité aux exploitations agricoles de choisir justement les moyens qui vont permettre d'atteindre ce résultat, mais aussi de les personnaliser par rapport au contexte spécifique de chaque exploitation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour atteindre un même résultat, on aura potentiellement plusieurs possibilités pour cela, plusieurs chemins différents qui vont tous converger au final vers le même résultat, mais ces chemins différents auront permis finalement à la base de s'adapter au contexte particulier de chaque exploitation, donc au type de sol, au contexte météo local, au matériel présent sur l'exploitation, au temps disponible de l'agriculteur. Et toutes ces choses-là, finalement, c'est ce qui permet de personnaliser un petit peu l'accompagnement que nous, coopératives, on peut porter aux agriculteurs. C'est un élément très important. On personnalise de plus en plus l'accompagnement que l'on porte. On n'est plus du tout dans le conseil agricole qu'il y avait encore il y a quelques années où finalement on dupliquait le même conseil partout, un modèle assez unique et finalement ça fonctionnait bien pour une agriculture conventionnelle assez intensive. Et aujourd'hui finalement on n'est plus du tout dans cette logique-là, on est vraiment dans l'adaptation de l'accompagnement au contexte particulier de chaque exploitation. Et c'est ce vers quoi aussi, c'est ce qu'encourage justement l'agriculture de résultats. Donc ça, c'est plutôt une vertu de ce système.
Rémi, vous êtes agriculteur dans le centre de la France. Est-ce que vous pouvez peut-être dans un premier temps nous présenter votre exploitation ?
Alors oui, je suis dans la région centre. Donc je me présente toujours comme un cultivateur beauceron. Et maintenant, j'ai même tendance à rajouter un petit C, peut-être du carbone, et devenir un cultivateur beauceron. Alors la Beauce, c'est connu pour ses productions de grandes cultures, avec une grande diversité grâce à une richesse qu'on a sous nos pieds qui s'appelle la nappe de Beauce et l'irrigation, qui nous permet de faire une agriculture de résultats qui a comme vocation à assurer des quantités, mais surtout aussi à assurer des qualités. Sur mon exploitation, je fais essentiellement des productions de circuit court, c'est-à-dire que je cible mes productions, qui sont en nombre entre 7 et 8 maintenant, par rapport à des marchés spécifiques, à travers mes coopératives. Alors, ma production principale, c'est le blé dur, qui va à travers Excéréales, je pense, chez Panzani. Alors, comme je passe le dernier, je vais essayer de faire le lien avec tout le monde. Et cette production-là, elle est essentiellement liée à mon terroir. On a des terres à faire du blé dur, c'est-à-dire des terres qui sont argileuses et qui sont très peu profondes et qui vont dessécher très rapidement vers la fin de cycle pour avoir des blés durs de qualité.
Concrètement, là, vous avez l'occasion d'échanger avec un industriel type Panzani, avec des coopératives en termes d'accompagnement, en termes de construction de votre agriculture. Qu'est-ce que vous attendez de leur part ?
Moi, je me considère pas comme un agriculteur qui produit des céréales. Je me considère comme un producteur d'énergie, en fait. Mon travail, c'est de mettre des plantes sur ma surface qui puissent capter la lumière, capter le carbone à travers le dioxyde de carbone, capter de l'eau et transformer ça en énergie qui vont être stockées dans des grains ou dans des racines pour mes productions. Et puis, ça, c'est mon travail, en fait. Et c'est de trouver, après, c'est de valoriser cette énergie à travers à la fois de la quantité, mais aussi à travers des filières de qualité. Alors, c'est le cas pour le blé dur, c'est le cas aussi pour la betterave. Je suis un jeune betteravier, j'ai commencé il y a à peu près 13 ans, quand les marchés se sont ouverts en dehors du marché du sucre. Et finalement, j'ai toujours fait de la betterave, mais pas pour faire du sucre, pour faire de l'alcool, pour faire du carburant, pour faire de l'énergie, pour faire des alcools surfins qui vont dans la Cosmetic Valley, qui est entre Orléans et Chartres, et pour faire du gel hydroalcoolique qu'on s'est servi depuis 2 ans. Quoi. Voilà. Et c'est de montrer que finalement, quand je fais de l'orge aussi, je fais de l'orge de brasserie pour faire en fait du malt à travers les filières de ma coopérative avec céréales, et qui a aussi des distilleries pour faire soit du whisky, ou qui va vendre du malt à des brasseurs pour faire de la bière. Et ce qui est intéressant, c'est de voir toute cette relation qui va finalement jusqu'au consommateur. Mais même si je fais, quand je dis je fais des circuits courts, c'est que ma sucrerie est à 15 km de chez moi, ma coopérative est à 12 km de chez moi. Si je peux faire de la vente directe par des courtiers ou des négociants aussi, c'est toujours avec de la proximité.
Finalement, vous êtes pleinement dans le local qui est recherché et que Lydia a exprimé en introduction.
On est loin des ports, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a toujours eu des productions qui sont relativement locales, avec des transformations qui peuvent être lointaines, mais qui restent relativement européennes. Et en plus, le lien avec les circuits, ce sont des liens de proximité, en fait. Alors, il y a aussi des choses qui bougent, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai commencé à faire du soja il y a 2 ans, du soja avec une filière spécifique qui était proposée par ma coopérative, qui était une filière sans OGM. Et là, cette année, j'ai arrêté parce que cette filière a disparu, puisque la filière a changé en étant sans déforestation. Alors, comme on n'a déjà plus de forêt chez nous, en Beauce, on a relativement peu de forêt et peu de haies. Donc, ce marché-là est parti ailleurs, en fait. Donc, on voit bien que le marché du sang aussi nous fait un peu peur, nous, agriculteurs. Parce que quand on veut arriver à une agriculture de résultats, il nous faut des moyens. Et au cours de mon histoire, j'ai fait mes études avant, dans les années 80, donc on était en agriculture intensive. On était subventionné sur les quantités produites. On utilisait tous les moyens technologiques qui étaient à notre disposition, qui en plus étaient très peu coûteux, qui étaient facilement valorisables. Et puis la PAC 92 est venue casser un peu ce modèle de l'agriculture intensive. J'étais chez Jeunes Agriculteurs à l'époque et on avait démontré avec des tableurs Excel à la communauté qu'on était en fait le canton de France le plus touché. Et on est passé à une autre agriculture qui est l'agriculture raisonnée, en fait. Où là, on raisonne en fonction des coûts des intrants qui ont considérablement augmenté. On raisonne aussi en fonction de la réglementation, de l'environnement. Et on a une agriculture raisonnée qui s'est établie avec des marchés et puis des liens et de la valorisation aussi. Et là, aujourd'hui, on est passé à une autre agriculture, je pense, depuis les années 95, qui est une agriculture de contrainte, où là, le poids de la réglementation, le poids de l'opinion est en fait beaucoup plus lourd sur nos exploitations. Et on arrive à des situations d'impasse, où il y a des cultures où on n'est plus capable de les mener jusqu'au bout en termes de production, mais aussi en termes de qualité. Et on se retrouve un peu finalement comme l'agriculture bio, avec des espèces de contraintes dogmatiques et qui freinent en fait notre volonté de faire mieux, en fait. Parce que notre agriculture, aujourd'hui, le but, c'est qu'on ne peut pas se passer de pesticides, on ne peut pas se passer d'azote de synthèse pour arriver à faire, par exemple, des pâtes de qualité. Par contre, on peut utiliser des nouveaux moyens qui nous permettent de mieux les utiliser. Et ça, c'est tout l'enjeu de la transition agricole, qui est essentiellement d'utiliser les vieilles techniques qu'on utilise depuis des siècles, comme la rotation, les assolements. La deuxième révolution agricole nous a apporté la chimie, la génétique. Et c'est encore des outils qu'on aura forcément besoin. Et la révolution d'aujourd'hui, bien évidemment, c'est la révolution du numérique qui nous permet d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire utiliser encore les anciennes techniques, mais avec une utilisation qui est beaucoup plus durable, je dirais, et puis d'utiliser aussi la force du numérique pour faire autre chose, et notamment tous les enjeux climatiques et environnementaux. Et ces enjeux-là, ils sont importants. Parce que quand je vois que nous, producteurs, c'est nous qui avons l'impact carbone le plus important, ça me fait peur quand on présente des choses comme ça. Sachant qu'on ne fait pas le bilan entier du bilan carbone sur nos exploitations. On utilise évidemment de l'énergie fossile, mais aussi on capte aussi du carbone. Et je crois qu'on arrive à un moment où on a toujours essayé de valoriser en fait notre impact ou notre bénéfice environnemental par rapport à la biodiversité, par rapport à des choses comme ça, sur nos exploitations à travers le produit. Et je crois que ça, c'est une limite qu'on aurait du mal à continuer. Je crois qu'on va dissocier ces deux types de production sur mon exploitation, à la fois la production qui est liée à l'alimentation, la production qui est liée à l'énergie, parce qu'on a une grosse proportion aussi qui est liée à l'énergie, et puis aussi notre rapport sur les enjeux climatiques qui devront être valorisés certainement d'une autre manière et d'une manière différente. Pourquoi ? Parce que finalement, pour l'instant, nous, producteurs, on sort des tonnes, on sort des quintaux, on sort des choses qui sont palpables. Sortir du carbone, on a du mal à valoriser du carbone, on a du mal à le palper. Et tout ça rentre un peu dans une valorisation un peu virtuelle, mais que l'on commence à voir dans nos mondes grâce au numérique. Quoi. Voilà.
Oui, tout à fait. Vous abordez un point qui sera abordé dans les conférences qui seront organisées par BioLine demain sur la biodiversité ou jeudi sur le carbone. C'est cette qualification de ce que nous on appelle les actifs immatériels, donc le carbone, la biodiversité, tout ce qui n'a pas trait vraiment à la qualité intrinsèque du produit. Comment est-ce qu'on trouve des voies de financiarisation, de rémunération de ces actifs immatériels qui peuvent passer par les filières agro-industrielles. Peut-être une partie des consommateurs sera prêt à financer, mais il y a d'autres acteurs, des entreprises, d'autres secteurs qui sont aussi à même de financer cette transition. Aline, je te laisse la parole peut-être. Merci. Sur ce point.
Alors, c'était pas exact, c'était pour réagir à ce que vous disiez sur le fait que ça puisse être culpabilisant quelque part de se voir. C'est vrai, quand on monte la CV d'un produit alimentaire, l'agriculture, c'est assez systématiquement plus de 50 et ça s'approche souvent de 80% du poids environnemental du produit. Mais vous l'avez dit vous-même, ça s'explique tout simplement par le fait que c'est à votre étape que se crée la valeur nutritionnelle des produits. Donc c'est vous qui créez toute la valeur, le gros de la valeur. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'en aval, il y a bien sûr la transformation qui va optimiser la valeur nutritionnelle de la calorie que va produire le producteur, mais vous transformez du CO2, du carbone du sol et de l'air en denrées alimentaires. Donc c'est ça aussi, je pense qu'il faut le rappeler, parce que c'est super énervant d'être toujours stigmatisé, parce que mathématiquement, on est le premier contributeur, parce que c'est à votre niveau qu'on crée de la calorie, qu'on crée de l'énergie, de la protéine valorisable en alimentation humaine. Donc c'est important aussi de rappeler que oui, on a un impact, mais c'est parce qu'on est les premiers à rendre ce service nutritionnel, en fait. Et que nourrir, ça reste un besoin assez fondamental.
La crainte, elle est double, c'est qu'on nous dise, bien, il faut diminuer votre impact, donc diminuer votre production. Mais on sait bien qu'en augmentant notre production, on capte plus de carbone encore. Donc le système, il doit être à la fois circulaire et vertueux et s'orienter vers une agriculture écologiquement intensive et qui nous permet de capter cette énergie que tant le soleil brillera est disponible et puis pouvoir s'en servir de manière vertueuse à travers une économie qui est éco-responsable, circulaire, ainsi de suite.
Du coup, ça pose vraiment deux questions. Il y a la première qui est celle de travailler à cette agriculture écologiquement intensive, comme vous l'appelez, au champ, et c'est toute l'expérimentation qui peut être menée en coopérative. Et après, il y a tout le travail de valorisation, en fait, de traduire cette transition en résultat avec des données. Et là se pose la question de la donnée. Comment est-ce que vous, agriculteurs, qui avez un certain nombre de pratiques qui mettaient en place, comment est-ce que demain vous justifiez de réduire votre empreinte carbone et qu'un industriel comme Panzani peut aller derrière justifier auprès de ses consommateurs pour en tirer un bénéfice?
Alors, pour moi, c'est tout l'enjeu de la transition agricole, en fait. Parce que pour utiliser les données, qui seront utilisées jusqu'aux consommateurs, en fait, il faut les produire. Et là, aujourd'hui, on demande à l'agriculteur de produire des données. Donc, de produire, de faire de la traçabilité. Et en fait, il est devenu un vrai esclave de l'administration et du clavier. Et il faut qu'on passe à des systèmes où, finalement, que ça soit relativement transparent et que la donnée soit créée pratiquement sans saisie. Alors, il y a des systèmes qui commencent à se mettre en place, mais qui permettent justement de créer cette donnée qui puisse être exploitable, parce que plus la donnée sera en plus rapide et une manière de structurer et aussi en flux, plus elle pourra revenir aussi à l'agriculteur en tant que producteur. Je suis vice-président d'un centre de gestion. On a énormément de mal à récupérer les données pour faire de la comptabilité. Ça prend beaucoup de temps à l'agriculteur aujourd'hui. La facture X qui va arriver dans 3 ans peut-être simplifiera un petit peu les choses. Mais aussi toutes les données de traçabilité avec la vente d'une séparation du conseil, on demande de calculer des IFT sur 3 ans et tout ça. C'est de l'esclavage informatique, ça.
Comment est-ce que vous, industriel agroalimentaire, vous travaillez justement sur ces données pour à la fois gérer l'aspect contrainte pour l'agriculteur et en même temps avoir suffisamment de données pour avoir des éléments tangibles à proposer aux consommateurs et à mettre sur votre produit?
C'est un vaste sujet. En effet, c'est le point clé, en fait. Hein, et c'est le point clé en regardant en fait les différentes pratiques des différents agriculteurs. On a une vraie problématique. En fait, c'est très diversifié en fonction de la maturité de l'exploitation. Si c'est du papier, il y en a certains qui ont des systèmes automatisés et d'autres pas. Donc, c'est une vraie problématique aujourd'hui. Nous, on n'a pas débugué la façon de faire avec toute la diversité qu'on a en fait au niveau des agriculteurs et la maturité en fait des agriculteurs. Mais on s'y attelle là aujourd'hui. Mais c'est en effet le point à vraiment travailler aujourd'hui pour avoir de la donnée fiable qui remonte et qui soit le moins consommateur en fait de temps possible pour l'agriculteur. Mais c'est une vraie problématique en effet, ouais.
Chez Océalia, peut-être, comment vous travaillez le sujet justement, vous qui êtes à l'interface?
Oui, alors on est au tout début, hein, je pense, de l'histoire là, sur les datas, hein, mais on a investi beaucoup là, depuis 2 ans chez Océalia justement sur le sujet, alors pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'on a conscience que les données serviront déjà sur l'aval, effectivement, comme élément de traçabilité, comme élément de preuve. Ça sera un outil de la confiance entre le consommateur et l'amont, l'agriculteur. Donc ça, c'est voilà, un premier élément qui est déjà en place et qui nous fait penser que la donnée, de toute manière, sera importante encore pour un bon moment. Après, au-delà de ça, et ça rejoint du coup ce qui est dit par Rémi, c'est que par contre, le point de vue amont, cette unique finalité d'amener finalement une sorte de preuve au consommateur, c'est plutôt vécu, enfin c'est même carrément vécu par une contrainte, comme une contrainte par les agriculteurs. Puisque finalement, ils mettent déjà en place les pratiques qu'on leur a demandé de mettre en place, mais il faut en plus de ça qu'ils aillent réécrire, même si c'est informatique, mais réécrire dans l'outil de traçabilité ce qu'ils ont fait. Alors, je ne veux pas dire que ça double leur temps de travail, mais effectivement, ça peut prendre un temps assez conséquent. Donc, c'est vrai qu'il y a des outils aujourd'hui qui arrivent pour automatiser un petit peu une partie de cette saisie-là, mais bon, c'est encore là aussi au début, ce n'est pas si évident que ça. Et ce qu'on a travaillé à faire là, depuis 2 ans, c'est aussi à essayer justement d'amener une autre valeur aux agriculteurs que simplement la traçabilité qu'on amène à l'adhérent, alors qui sert déjà à l'agriculteur, puisque c'est ce qui permet d'avoir une valeur ajoutée sur les productions, donc il y a déjà un premier intérêt. Mais au-delà de ça, ce qu'on perçoit aussi, et là, pour le coup, on considère que les coopératives ont un rôle à jouer à ce niveau-là, c'est que les données sont aussi un élément d'acquisition de connaissances dont je parlais tout à l'heure, et donc c'est cette acquisition de connaissances qui est nécessaire à l'accompagnement de la transition agricole. Je vais prendre un exemple très concret pour l'évaluation variétale que l'on fait à travers des essais au champ. Donc on sème plusieurs variétés, puis on compare leur niveau de performance sur différents critères. Ça peut être par exemple leur aptitude à fabriquer, avoir un bon taux de protéines compatible avec les exigences des industriels. Mais ceci étant dit, on ne peut pas démultiplier, enfin, ce sont des essais qui sont très chronophages en termes de temps humain à y consacrer, donc on ne peut pas les démultiplier à l'infini dans l'ensemble des systèmes pédoclimatiques que l'on rencontre sur le terrain. Alors que demain, avec l'analyse des data, si on est capable d'agglomérer suffisamment de données d'itinéraires techniques, de les mettre en corrélation avec des résultats de performance obtenus, l'idée, l'ambition en tout cas, c'est justement de tirer des corrélations entre certaines pratiques et certains résultats. Et là, on fait la boucle justement avec l'agriculture du résultat. Et à ce moment-là, les données seront aussi un moyen pour l'agriculteur d'obtenir, en tout cas c'est ce qu'on pense, d'obtenir une valeur autre que simplement l'aspect traçabilité. Voilà, l'acquisition de connaissances et via l'acquisition de connaissances, le gain de productivité si possible. Voilà.
Alors ça, c'est valable à la fois pour la partie production, mais aussi toute la partie biodiversité qui reste relativement floue pour un agriculteur. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Biodiverse Idées, c'est de trouver les bonnes idées pour la biodiversité. Mais tout ça, ça demande aussi finalement beaucoup de data. Et on sait bien que la biodiversité, une barre régulière sur une année, ou même faire des bilans annuels sur la biodiversité, c'est pas très logique. Et tout ça, c'est lié aux données. Le gros problème qu'on a aussi en France, c'est que toutes nos datas sur une exploitation agricole sont relativement silotées par rapport à des objectifs privés. Donc il y a beaucoup de ressaisies pour des informations qui sont globalement les mêmes. Par exemple, pour déclarer à l'administration la quantité des mètres cubes que j'utilise en irrigation, je dois le faire à deux époques différentes, fournir les deux mêmes chiffres à deux administrations différentes.
C'est quelque chose, en tout cas, sur lequel nous, on doit travailler. Alors, sur l'administration, on n'y arrivera peut-être pas. Mais en tout cas, en tant qu'entreprise, on se doit de travailler collectivement pour justement être plus efficient. Et on parlait tout à l'heure de l'efficience des filières agricoles et de leur résilience pour que justement, on soit dans l'optimisation, dans la simplification de ce transfert de données, de bien partir du besoin industriel et quelles sont les données à mettre en place. Peut-être pour terminer cette table ronde et faire vraiment la boucle, un petit mot sur... on parlait des attentes du consommateur en introduisant cette conférence. Finalement, vous essayez aussi par votre activité, que ce soit sur Twitter ou sur l'Open AgriFood, de communiquer avec ce citoyen, de le sensibiliser en fait à cette transition agricole.
C'est-à-dire que bon, ça a été la réflexion notamment de Xavier Belin et Emmanuel Weissnex à la création de l'Open AgriFood il y a quelques années, c'était de créer ce lien entre les producteurs et le consommateur. Parce que globalement, moi j'ai aucun lien avec le consommateur, c'est quelqu'un que je ne connais pas à travers mes filières. Par contre, j'ai des liens relativement proches avec des citoyens et avec l'opinion, qui sont en fait mes voisins, qui sont peut-être mes voisins sur ma commune, où on doit communiquer aussi, mais aussi mes voisins qui consomment mes produits et qui ont besoin à la fois de trouver de la confiance à travers le produit. Et nous, ce qu'on a besoin, nous, agriculteurs, aujourd'hui, c'est d'avoir de la bienveillance par rapport à nos activités. Des choses qui sont en train de se dégrader dans le milieu rural de manière assez rapide. L'Open AgriFood, c'est vraiment cette volonté-là de rapprocher et de mettre en discussion en fait toute la filière et que finalement, c'est le seul lieu que je connaisse où un agriculteur peut rencontrer un distributeur, rencontrer un industriel et rencontrer des associations de consommateurs quand ils veulent bien venir. Voilà. Et les difficultés qu'on a aujourd'hui dans le monde rural, on le sent dans nos communes, ça a été amplifié par le Covid, c'est qu'on considère aujourd'hui nos villages comme un peu des refuges ou des zones où ça doit être réservé à la nature, ça doit être un lieu de repos, et toute l'activité, le divertissement, la consommation se fait en fait sur les lieux urbains et sur les métropoles. Et aujourd'hui, on est confronté, dès qu'on a un gîte, par exemple, qu'on veut monter un méthaniseur, qu'on veut développer une nouvelle filière, construire un bâtiment pour faire ça, eh bien, on a des oppositions qui ne sont pas liées aux nuisances de l'activité, mais qui sont liées à l'activité économique qu'on voudrait développer dans nos zones rurales. Un exemple, que je suis très proche de la métropole d'Orléans. La métropole d'Orléans reprend 90 hectares pour faire une zone artisanale, alors que nos zones artisanales de nos chefs-lieux de canton qui entourent la métropole sont vides aujourd'hui. Et la raison, c'est que en fait, les personnes sont très peu mobiles et ils ont des difficultés à aller travailler en fait dans les zones rurales et même à s'installer. Et il y a ça commence à poser des problèmes qui sont importants, je pense, sur la répartition de l'activité économique sur nos territoires.
Est-ce qu'il y a des questions ? Oui.
Bonjour, Emmanuel Audouin, Bureau Veritas. Ça a été un peu mentionné sur le label bas carbone. Je profitais d'avoir ce panel de grande qualité et de diversité pour vous faire réagir un petit peu là-dessus. Donc, le label bas carbone va se mettre en place avec des résultats et l'agriculteur pourra toucher quelques sous pour des crédits carbone. Mais on entend dire aussi, puisqu'on est, on est dedans, que, bah, il faudrait peut-être que les filières rajoutent au bout. Hein, parce que les crédits la vente de crédit carbone sera peut-être suffisante, donc je serais intéressé d'avoir quelques retours là-dessus de Rémi, de Panzani, de la COP, etc. Merci.
Ouais, pour l'instant, ça reste relativement flou, donc c'est un peu une espérance. C'est comment on va mesurer ça sur les exploitations agricoles. Les premiers projets, c'était de mesurer la transition de l'exploitation par rapport à une efficience, par rapport au captage de carbone. Alors, que penser par rapport à un agriculteur qui a déjà fait une transition il y a plus de 25 ans ou 30 ans, quels sont les bénéfices qu'il pourrait en tirer, et puis après, aussi des doïmes qui sont liés à du sang, c'est-à-dire on ne voudrait pas qu'il y ait l'irrigation, on ne voudrait pas qu'il y ait des choses comme ça, qui bloquent en fait notre capacité à capter du carbone, quoi. Et puis aujourd'hui, moi j'ai fait 20 ans d'agriculture de conservation. Aujourd'hui, j'ai ressorti la charrue parce que je tombe dans des impasses liées à un manque d'évolution de nos solutions, notamment en herbicides, quoi. On a des impasses au niveau insecticide sur des cultures. J'ai vécu la production de betteraves qui a été divisée par deux parce qu'on nous a supprimé un insecticide. Ça, c'est des tonnes de carbone qui sont en fait gaspillées. Quand on parle de l'agriculture intensive qui était la recherche du rendement maximum, hein, on est passé à une agriculture raisonnée qui est la recherche du rendement optimum. Et quand on est dans une agriculture aujourd'hui, comme j'expliquais tout à l'heure, de contraintes, on est sur le rendement qu'on peut faire. Et toute cette perte-là, en fait, c'est le premier gaspillage alimentaire de production et qui n'est pas visible et qui n'est pas palpable parce qu'il n'est pas créé. On a du gaspillage alimentaire chez le consommateur dans un frigo quand il jette. En fait, il a eu de la valeur. Il a été créé. Il a créé des emplois et il a fait fonctionner l'économie. Là, ce qu'on est en train de gaspiller sur notre capacité de production sur nos exploitations françaises, ça ne se voit pas. Et en fait, c'est du carbone qu'on ne capte pas non plus, qu'on ne met pas dans la machine et qui est complètement renouvelable et durable. Donc après, qu'on nous rémunère sur cette partie-là, évidemment, c'est intéressant. Hein, ça nous permettrait de montrer aussi l'efficacité, peut-être communiquer autrement sur notre métier.
Bon, je pense qu'on m'entend. Non, peut-être juste pour compléter, en fait, on est au démarrage, en fait. Hein, donc, en fait, ouais. on en est vraiment... On fait notre T0 en fait, hein. On fait un diagnostic en fait pour savoir où on en est en fait, hein. Donc on démarre en fait. Donc c'est extrêmement compliqué de vous répondre sur une question aussi précise. Hein. Donc il faut, ça commence. On a des outils. Ce qui est bien, c'est qu'on a des outils pour pouvoir mesurer. On va faire notre diagnostic, on va pouvoir mesurer une trajectoire carbone. Mais après, il y a tout le champ en fait qui va s'ouvrir à nous en fait. Hein. Mais on peut pas plus vous répondre en fait que ça. Aujourd'hui, ça démarre en fait.
C'est assez compliqué aujourd'hui, effectivement, de se projeter parce que le dossier carbone, il est assez récent. Alors, sur l'aval, la rémunération de la tonne de carbone, bon, même s'il y a aujourd'hui des prix qui courent dans la radio-campagne, mais c'est dur de savoir ce qu'il en sera, effectivement, sur du moyen terme. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la salle qui ont des infos mieux avisées que les miennes, mais voilà, c'est très dur de savoir ce qu'il en adviendra. Est-ce que ça va monter? Est-ce que ça va stagner? Est-ce que ça va descendre? Bon, donc ça, c'est une première chose. Et puis sur les coûts, c'est pareil, comme il y a assez peu aujourd'hui, enfin, ça commence vraiment tout juste, donc Il y a assez peu d'agriculteurs encore réellement fortement engagés dans la démarche. Ce qui est sûr, c'est que ça aura des coûts, ça c'est certain, puisque stocker du carbone, ça va impliquer la mise en place de certaines pratiques qui, si on veut stocker davantage de carbone, souvent n'étaient pas faites ou pas développées à leur plein potentiel auparavant. Mais si je prends l'exemple de la mise en place d'interculture, voilà, on va peut-être travailler des mélanges un peu différents pour avoir des potentiels de biomasse supérieurs, etc. Et bon, voilà, ce type de pratique a un coût pour l'agriculteur. Il y aura aussi un coût, je pense qu'on oublie souvent, mais que du coup, moi, dans mon rôle de coopérative, je vais rappeler, mais c'est le coût aussi d'accompagnement de l'agriculteur dans ce type de démarche, puisque, alors, même si en soi, rien n'interdit que l'agriculteur fasse son suivi en autonomie, mais dans les faits, ce sont des démarches qui sont assez complexes, qui bien souvent nécessiteront pour les agriculteurs d'être accompagnés, comme c'est souvent le cas sur la démarche HVE, par exemple, qui est sur laquelle on a plus de recul. Et voilà, l'accompagnement d'une démarche HVE, ça représente aussi un coût qui est quand même significatif pour les exploitants. Alors, et donc, ça sera un jeu de balance entre effectivement les charges et les produits permis par cette rémunération carbone. Mais aujourd'hui, on est avec deux inconnus. Donc, c'est doublement compliqué, effectivement, d'avoir une réponse précise.
Évidemment, il y a des coûts, mais ça ne serait pas très grave s'il y avait une rémunération qui permet de couvrir les coûts, en fait. Mais en fait, ce qui bloque, je pense, plus les agriculteurs, c'est la notion de risque. C'est la notion de risque. C'est-à-dire que quand on fait une interculture et puis qu'on nous oblige qu'elle soit... alors là, ça va être le pompon l'année prochaine derrière une culture de betteraves. C'est-à-dire qu'on devra être obligé de mettre des cipans, des cultures intermédiaires de piège à nitrate, des surfaces d'intérêt écologique. Hein, mais dès qu'ils vont commencer à fleurir, il faudra les détruire. Parce qu'ils sont derrière une culture de betteraves qui a potentiellement un insecticide qui pourrait éventuellement toucher des pollinisateurs. Donc on tombe dans des systèmes qui sont complètement ubuesques et c'est la notion de risque qui freine le plus les agriculteurs. C'est si je m'engage à semer et à faire quelque chose qui est bénéfique en fait pour l'environnement ou la captation de carbone, mais que je me retrouve dans une impasse, ben je ne prends pas le risque et je recule.